carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Arnaud Bréjon de Lavernier, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et directeur des collections du Musée National et aussi commissaire de l'exposition dont on va parler. Nous sommes à la Galerie des Gobelins, dans le 13e arrondissement de Paris, avenue des Gobelins. Cette galerie vient d'ouvrir et c'est une sorte de vitrine pour la manufacture dont les trésors sont souvent cachés. On pourra dorénavant y voir deux expositions par an. La première, cet automne, c'est-à-dire jusqu'au 15 novembre 2009, fête l'ouverture de la galerie en présentant 30 tapisseries exceptionnelles et quelques meubles non moins exceptionnels par leur élégance et par leur rareté. Cette exposition s'appelle Fastes Royaux, la collection des tapisseries de Louis XIV. Vous l'avez compris, on va parler de notre cher Louis XIV. Alors, monsieur le directeur, parlez-nous de la manufacture elle-même. Ce lieu éminemment symbolique de la politique de Louis XIV et de Colbert, c'est nos grands hommes qui voulaient donner une impulsion à l'industrie française. Et puis, présentez-nous vos tapisseries princières.
Royales.
Royales et princières, oui.
Bon, juste dire donc aux auditeurs qu'on va parler donc d'une exposition qui est absolument extraordinaire, c'est la collection des tapisseries de Louis XIV. Mais peut-être au tout début, donc élargissons le débat, survolons, et disons qu'on est ici au Gobelin. Nous sommes là donc depuis 4 siècles, donc dans ce faubourg Saint-Marcel, tout près de la rue Mouffetard, et que dans ce lieu, donc Henri IV a installé des lissiers flamands, deux manufactures de lissiers flamands qui ont été deux manufactures nationalisées par Colbert et Louis XIV en 1662. Cela devient les Gobelins. Mais mieux encore, mesdames et messieurs les auditeurs, mieux encore, vous dire que nous sommes au Mobilier National, une des grandes institutions de la République française. Et le Mobilier National, c'est la réunion, récemment, en 1937, de deux institutions créées par Colbert et Louis XIV. Premièrement, des manufactures, on l'a évoqué rapidement il y a quelques secondes. Et puis deuxièmement, un garde-meuble. Ici, donc depuis 1937, mais on avait d'autres adresses très prestigieuses dans Paris, on garde des meubles, on conserve des meubles, on travaille pour les lieux de pouvoir, et deuxièmement, on fabrique de l'art contemporain. Cette maison, le Mobilier National...
C'est du mécénat ?
Voilà, c'est du mécénat d'État. Cette maison, c'est 4 siècles d'art vivant, 4 siècles d'art contemporain. Il faut bien retenir deux choses. Premièrement, des manufactures où on crée des tapisseries et des tapis depuis 3 siècles. Et puis deuxièmement, des garde-meubles où on conserve des meubles pour les lieux de pouvoir. Alors dans les manufactures, il y en a 3. Gobelin, Beauvais et Savonnery. Les Gobelins fondés en 1662, la manufacture de Beauvais fondée en 1664 et la manufacture de la Savonnerie qui fabrique des tapis, qui est une création de Henri IV, mais qui arrive ici en 1820. Et notre collection, c'est 6000 tapisseries et tapis. Et dans cette collection de l'État français, on a choisi 30 tapisseries, pas plus, pas moins, 30 tapisseries qui ont appartenu, qui ont fait partie de la collection donc du roi Louis XIV, et c'est ce qui nous retient donc aujourd'hui.
Alors, quels sont vraiment, vous parlez du roi Louis XIV, mais quelles sont les provenances de vos tapisseries? Quel est le fil rouge que l'on peut
dans cette galerie des Gobelins, qui a rouvert ses portes il y a 2 ans, la fois que nous le disions à nos auditeurs, c'est qu'on était très malheureux parce que cette galerie, elle a été fermée pendant 32 ans. Ce qui est grave parce qu'on a perdu visibilité, lisibilité. Ici, on crée des meubles, on crée des tapisseries et des tapis, on les restaure, on fait des acquisitions. Donc on a une partie art décoratif et qui n'était pas montrée au public. Chaque année, on réalise 2 tapis, 5 ou 6 tapisseries complètement contemporaines et puis on crée, on réalise quelques meubles.
J'ai vu que vous aviez des tapisseries dessinées par Pierre Soulages.
Exactement.
Est-ce qu'on verra quelque chose comme ça à son exposition?
Oui, alors l'exposition va ouvrir. Alors souvent, ça c'est une question passionnante. Alors souvent, je ne devrais pas le dire à la radio, mais on est un peu oublié, si vous voulez.
Oui.
On est un petit peu oublié.
Oui.
On était au cœur de la création artistique au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et puis, à partir du XIXe siècle, du XXe, les conservateurs de musées oublient un petit peu la tapisserie. Je ne veux pas commencer cette interview par une note négative, mais dans les collections du Centre Pompidou, il n'y a pratiquement pas de tapisserie présentée, ce qui est une grave, grave lacune.
Donc,
et moi, je considère que c'est une grave injustice.
Donc, dans l'exposition de Pierre Soulages qui va s'ouvrir bientôt, il n'y aura pas les tapisseries.
Alors, je crois savoir qu'il n'y en a pas, mais bon, pour moi, c'est une lacune.
Passons. Revenons ici.
Alors ici, c'est la collection de Louis XIV qui n'était pas du tout étudiée. Là encore, c'est une injustice. Louis XIV, on parle de lui pour les tableaux. Moi, jadis, j'ai publié un livre en 1987 sur la collection des tableaux de Louis XIV. On parle de lui pour les jardins. Il aime les jardins. On parle de Louis XIV pour l'architecture.
La botanique.
Il aime aussi les botaniques, les pierres précieuses. Mais on avait gommé, on avait oublié cet aspect tapisserie. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Guy Fray. C'est un grand érudit qui a dû connaître les différentes académies donc à la fin du XIXe siècle et qui a publié un inventaire des collections de Louis XIV. C'est un inventaire de 400 tentures. Une tenture est un vieux mot de la langue française qui désigne un ensemble de tapisseries. Et Louis XIV, il a eu à sa mort en 1715 à peu près 2000 à 2500 tapisseries. Mais que quand Guy Fray publie cet inventaire en 1885, il le publie à l'état brut, c'est-à-dire sans aucune annotation, sans appareil critique, sans photographie, sans localisation et sans remettre en cause les attributions. À l'époque, quand l'inventaire est rédigé, vers 1700, on donne tout à Dürer, ce qui est un peu nordique, on donne tout à Raphaël et Giulio Romano, le grand élève de Raphaël, Jules Romain, ce qui a un air italien. Alors avec mon adjoint, M. Vitet, nous avons fait un examen systématique et nous publions aux éditions Faton début décembre de 2009 donc le catalogue des tapisseries. Alors l'exposition de 30 tapisseries le reflet de ce travail de longue haleine, ça sera un travail j'espère pas trop mauvais qui va durer 30 ans ou 40 ans et qui va devenir donc l'ouvrage essentiel, l'ouvrage je l'espère donc de référence pour la collection des tapisseries de Louis XIV.
Alors,
pour revenir, si vous me permettez,
donc,
à votre question.
Ces tapisseries magistrales.
Voilà, pour vous revenir à votre question, il y a quatre provenances, sans être trop scolaire, sans être trop ennuyeux. Il y a quatre provenances. Il y a premièrement le fonds de François Ier. Louis XIV hérite de tapisseries de François qui viennent de François Ier, mais qui malheureusement ont brûlé. Pour la plupart, en 1797, donc à l'époque du directoire, parce qu'on voulait récupérer
les fils d'or et d'argent.
Donc il y a eu des destructions dramatiques. On appelait ça, Francis Salet a appelé cela un crime culturel. Deuxièmement, l'héritage de Henri IV et Louis XIII. Rappelez-vous, c'est que quand Henri IV crée les manufactures flamandes, donc dans le faubourg Saint-Marcel.
Pour éviter la fuite des capitaux.
Et qui donc, cette installation de lycée flamand a lieu en 1602. Et l'activité du faubourg Saint-Marcel de 1602 à 1662 était extrêmement active. Les meilleurs artistes travaillent pour les manufactures. Rubens, Vouet, Dubreuil, Erard, Le Sueur, Bourdon, Laurent de la Hire. Troisième provenance, grâce à Colbert, ça dure 6 ou 7 ans, pas beaucoup plus, Colbert achète des tapisseries prestigieuses, extrêmement belles, plutôt du 16e, dans des grandes collections. Fouquet, Mazarin, Abel Servien, un prêtre assez peu connu, l'abbé Lenormand, qui avait des tissages remarquables
des Anglaises,
de Raphaël. Et certaines de ces tapisseries, je vois que vous êtes très bien renseignée, chère madame, vous avez tout à fait raison, c'est des tapisseries souvent tissées à Mortlake. Mortlake est une manufacture de tapisseries anglaises vers 1630, tout près de Londres. Les plus beaux tissages du XVIIe siècle, d'après Raphaël, ont été faits à Mortlake. effectivement, Colbert et Louis XIV achètent les tapisseries donc, de Raphaël, donc de ces manufactures anglaises. Pourquoi ? Parce que le roi Charles Ier est guillotiné en 1640 et ses collections sont vendues à l'encan. C'est le même phénomène
arrivera pour la Révolution française.
Voilà,
après.
C'est le même phénomène que pour les tableaux. La collection du Louvre vient de en gros, quoi.
De
je
ces
pas
épisodes-là.
Trop, pas trop simplifié, mais vient de, c'est un peu les mêmes épisodes, les mêmes phénomènes. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, c'est l'activité des manufactures. Deux manufactures sont créées à partir donc, des cendres donc, du Faubourg Saint-Marcel, à partir des reliquats. Donc, c'est nationalisation, c'est les Gobelins et Beauvais. Et c'est ce que nous avons donc, dans l'exposition avec des créations des Gobelins. C'est le Gobelin au meilleur de lui-même, donc le Gobelin au top, hein, si vous me permettez.
Avec le rouge.
Avec le rouge, le mauve, donc des Gobelins. C'est Lebrun. Lebrun est à la fois le directeur de la manufacture, un peu le président directeur général des arts sous Louis XIV, et puis il donne des cartons pour que ces cartons, il donne des œuvres, des dessins, des esquisses qui vont être traduits en carton, et ces cartons vont être même traduits en tapisserie. Lebrun est le principal inventeur des tapisseries réalisées au Gobelin entre 1662 et 1690, date de sa mort. Donc voilà, en une phrase, les quatre provenances, le vieux fonds de François Ier, le fonds royal de Henri IV et de Louis XIII, des acquisitions prestigieuses grâce à Colbert, et enfin l'activité donc, des manufactures.
On dit toujours que les grands princes, les ducs, les rois encore bien sûr, se doivent d'avoir des tapisseries, parce que c'est l'un des arts les plus chers. Le peintre est payé très cher, le cartonnier, artiste cartonnier un peu moins, mais quand même. Et puis le pauvre lissier, lui, c'est autre chose. Mais c'est un art très onéreux.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un art extrêmement coûteux. C'est 100 fois plus coûteux qu'un tableau. Oui. On a des prix. La tenture de Scipion, donc d'après chez François Ier, d'après Giulio Romano, elle a coûté, je crois, 50 000 livres d'or. Et c'est des prix énormes, c'est des prix gigantesques parce qu'il y a des métaux précieux. Il y a un temps de tissage. Une tapisserie de 5 mètres par 4, c'est deux personnes pendant 6 mois à 1 an. Donc, c'est des salaires donc de lissiers et c'est presque des placements. Alors, il y a une analyse un peu donc, sociologique à faire qui a été faite par des écrivains comme Mario Praz. C'est que la tapisserie joue un rôle énorme dans l'ameublement, beaucoup plus qu'au XXe, beaucoup plus qu'au XXIe siècle. Les rois, surtout les rois, on parle des princes, mais mieux encore, parlons des rois, quand ils se déplacent d'un château à l'autre, ils se déplacent avec leur tapisserie. À quoi servent ces 2000 tapisseries de Louis XIV à meubler Saint-Germain-en-Laye, Meudon, Fontainebleau, Versailles, bien sûr, et lorsque le roi se déplace donc de château en château.
Mais alors elles étaient sans cesse roulées, ces tapisseries, elles n'étaient pas abîmées au
retour. C'était le métier de mon prédécesseur, et bien donc de faire des envois de tapisseries roulées, peut-être parfois pliées, mais plutôt roulées, donc sur des charrettes de Saint-Germain-en-Laye à Fontainebleau.
Anti-courant d'air, les tapisseries aussi avaient un côté peut-être un peu anti-courant
meuble, d'air. La tapisserie meuble, la tapisserie réchauffe le mur, et la tapisserie est un art sensuel, on se sent bien dans une pièce complètement couverte de tapisseries.
Alors ici, nous avons des tapisseries exceptionnelles. Nous en avons 30. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces tapisseries, des triomphes des dieux, etc.
Alors, dans l'exposition, il y a seulement deux tapisseries du XVIe, parce qu'elles ont presque tout brûlé, sauf les chasses de Maximilien. Elles sont encore au Louvre, n'ont pas brûlé par miracle, parce que le sujet était probablement profane. Alors, curieusement, le triomphe des dieux n'a pas brûlé. C'est les deux tapisseries qui accueillent donc, le visiteur dans la galerie des Gobelins. C'est d'après un artiste italien, pas assez connu du grand public, qui s'appelle Giovanni Daudine. C'est un élève de Raphaël. Il invente des grotesques, des arabesques. Les grotesques, ça vient du mot italien, grotta, parce que ces décors d'arabesques, c'est pré-rocaille.
Oui, pré-rocaille.
Pré-rococo. Et ça, ce sont donc des arabesques, des éléments ornementaux, végétaux, qui ont été peints dans la Rome du 1er siècle et du 2e siècle après Jésus-Christ. Et ces fresques ont été découvertes dans des grottes. Donc grotte, grotesque. Et ça a été remis à la mode donc par l'école de Raphaël, Giovanni Daudine. Et c'est les deux premières tapisseries qui accueillent l'exposition Triomphe de Minerve et Triomphe donc, de Bacchus. Réellement, hein, sans abuser donc, de superlatifs, ces deux tapisseries absolument poignantes, de très belles dimensions, fil d'or et d'argent. Et puis il y a un équilibre entre décor et partie ornementale. Elle est tellement belle que Louvois, le surintendant des bâtiments, décide de la faire copier au Gobelin, donc à la fin du XVIIe siècle. Et on a à côté donc la copie qui a été transformée, mise au goût du jour par un artiste qui s'appelle Noël Coypel. Qui est Noël Coypel? C'est un très bon peintre français de la seconde moitié du XVIIe siècle et qui est un contemporain de Charles Lebrun.
Il y a eu aussi des cartons de Rubens, je crois, qui étaient absolument d'une modernité étonnante pour l'époque, puisque tous les princes en voulaient.
Alors Rubens, vous avez raison, c'est une autre histoire. Mais vous me ferez songer, si vous en êtes d'accord, chère madame, donc à m'interroger un petit peu à la fin sur... J'aimerais donc pour nos auditeurs donc le redonner, donc les trois.
Oui, l'exposition,
il y a trois clés. Il y a trois clés pour comprendre l'exposition. Et si vous voulez, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, vous m'avez posé une question sur Rubens. C'est le grand peintre flamand que les lyciers, donc Commence et de la Planche, font venir à Paris. Et ces lyciers qui dirigent les manufactures ont l'idée de passer donc des commandes de cartons à Rubens sur le thème de Constantin. C'est une idée géniale.
Mariage de Constantin,
voilà,
c'est ça.
Mariage, oui. Mariage qui appartient à la tenture, une tenture de l'histoire de Constantin. Et c'est un coup de génie de ces lyciers flamands, Commence et de la Planche, parce que la tapisserie était un petit peu engoncée, prisonnière, de schéma un petit peu retardataire, maniériste, tardif, un peu une sorte de rhétorique qui tourne un petit peu à vide. Et Rubens débarque à Paris en 22-23 et c'est réellement donc un signe de modernité parce que c'est plus monumental, c'est plus héroïque, c'est plus vivant et puis en même temps c'est plus raphaélesque. Personne ne regarde Raphaël en 1580 parce que c'est l'art de la manière, la maniera, pour parler un petit peu comme André Chastel. Par contre, vers 1600, avec Caravage, avec Carrache, avec Rubens, ces artistes regardent à nouveau Raphaël, qui leur apporte donc des leçons d'ordre et de monumentalité. En d'autres termes, la tapisserie de Constantin, elle est apparue comme très très moderne en 1623, à telle enseigne qu'il y a eu 5 tissages de cette tenture.
Oui. Alors vous vouliez tout à l'heure
que je
vous rappelle...
Donner, voilà, merci beaucoup, chère madame, de donner à nos auditeurs un petit peu donc les inviter donc à venir voir l'exposition, parce que je ne sais pas une boutade, mais même Louis XIV ne l'a pas vue, hein, cette exposition. Même Louis XIV, il n'a eu que des visions extrêmement fragmentaires de cette tapisserie. Et là, l'avis donc, de mes collègues de Versailles est un peu unanime. C'est une très, très grande nouveauté. Donc il y a trois fils conducteurs. Le premier, c'est ce dialogue donc permanent entre 16e et 17e. Au 17e siècle, avec Louvois, on manque d'argent pour commander des nouveaux cartons. Alors Louvois prend une décision révolutionnaire, c'est de faire copier au Gobelin ou à Beauvais des grands
anciens
modèles, voilà, des anciens modèles du 16e. On copie Maximilien, on copie Scipion, on copie les Fruits de la Guerre, on copie les Mois Lucas et puis on copie les Triomphes des Dieux. Souvent, c'est des copies littérales, fidèles. Tantôt, ce sont des copies un petit peu donc améliorées avec une sorte d'aggiornamento. Et l'exemple de Noël Coypel, ce n'est pas une copie littérale, c'est une copie réécrite par Noël Coypel. Donc, toute cette exposition, c'est un dialogue permanent entre 16e et 17e siècle. Parce que j'ai voulu évoquer les tissages du 16e, qui avait malheureusement disparu, par des copies du 17e.
Très bien.
Deuxième
fil
conducteur, c'est l'importance que j'ai voulu donner à la tapisserie. Là, je suis un peu révolutionnaire et cela ne me dérange pas. Dans tous les musées du monde, la tapisserie, elle est présentée dans des départements d'art décoratif. Elle est présentée dans des fonds de pièces, sur des murs. Devant, on a des consoles, des commodes, des meubles. Sur la commode, on a des porcelaines ou des bronzes. Et la tapisserie est une gentille tâche colorée.
Papier peint panoramique.
Voilà, un petit peu réduit à l'état d'image, d'imago.
Oui.
Et moi, je demande autre chose. Je demande à la tapisserie, je demande aux visiteurs de le regarder à part entière, comme une œuvre d'art. Vous voyez dans la pièce où nous sommes, la dernière partie de la galerie qui est un triomphe, de l'apothéose donc des Gobelins et de Beauvais entre 1662 et 1715, eh bien, reconnaissez que la tapisserie, elle doit être vue en tant que telle, elle doit être lue comme un tableau. Parce que la tapisserie et les décors Je suis d'accord avec vous, mais elle est aussi histoire. La tapisserie raconte une histoire à telle enseigne que lorsqu'on désigne ces tentures, on est toujours le sujet. Tenture d'Artémise, tenture de Coriolan, tenture des éléments. On ne dit jamais,
il y a toutes les allégories.
On ne dit jamais tenture de Lebrun. On est toujours le sujet. Une tapisserie, ça raconte une histoire.
Oui.
Donc voilà le deuxième fil conducteur. Donc c'est de l'autonomie. Il faut retrouver donc, l'autonomie de la tapisserie et puis un art à part entière.
Eh bien, pour terminer, je constate une fois de plus que le renom des manufactures dans le monde reste toujours aussi grand, puisque vous allez pouvoir nous présenter deux fois par an tous vos trésors cachés. Cette exposition témoigne toujours de la vitalité de la tapisserie française.
Voilà. Si vous m'autorisez, donc une anecdote quand même très amusante. J'ai reçu donc un immense patron donc du textile donc en Italie, je ne pourrais pas dire le nom, mais un immense monsieur qui a vu l'exposition et je lui ai appris que l'on tissait aujourd'hui des tapisseries, qu'on fabriquait des tapis. Et il m'a dit ceci, mais avec un métier jacquard, point d'interrogation. Bien non, la réponse est non, nos réalisations ne sont pas mécaniques, c'est un travail manuel, c'est le même travail de tissage depuis 4 siècles et malheureusement on ne sait plus parce qu'on est dans une société où il y a dans cette sorte de surinformation, donc parfois il y a des choses essentielles qu'on ne sait plus, mais ces tapisseries, encore aujourd'hui, sont tissées comme au 15e, comme au 16e,
c'est donc,
et c'est très émouvant.
C'est très émouvant, effectivement, parce que quand on pense qu'Odilon Redon, Jean Harpe, Fernand Léger, Poliakoff, Calder,
Braque, Matisse, Louise, Picasso.
Oui, Louise Bourgeois, puisqu'on en a parlé l'année dernière, ont donné des cartons.
Des cartons d'apisserie, c'est tout le travail donc du ministère de la Culture et de l'administrateur général, eh bien, de savoir susciter des commandes. On n'est pas du tout franco-français. On fait appel à des artistes donc, étrangers. Et il y a une petite astuce, c'est qu'une tapisserie, ce n'est pas un tableau. Il y a des qualités propres à la tapisserie. Et la tapisserie ne doit en aucun cas être la copie d'un tableau, ce qu'elle a été un petit peu au XVIIIe siècle. Ce qu'elle a été un petit peu au 19e
siècle bien.
Et ce qui n'est plus donc depuis l'immense apport de Jean Lursa.
Très bien, merci monsieur le directeur.
Au revoir madame.